Aujourd'hui, on fait la fête dans notre église. Et si on fait la fête, c'est pas parce que l'école est finie, ou presque, même si c'est vrai qu'on serait bien tenté de rajouter ça comme sujet de joie aussi pour cette fin d'année scolaire. Mais je vois qu'il y a des enfants encore, loin dans l'assemblée. Comme tout va se passer ici, pour que vous puissiez vraiment bien insister, venez ici, venez coloniser les deux rangs devant, et j'invite les adultes aussi à pouvoir leur faire place. Je suis désolé. Venez les enfants. Si les parents doivent rester pour que leurs enfants se sentent bien, les parents peuvent rester aussi devant, bien entendu. Allez, venez les enfants, venez devant. Je vais vous raconter une histoire de fête. Une histoire de fête qui concerne un peuple qui n'est pas le nôtre, qui concerne les Israélites. Et on va comprendre, à travers cette histoire, pourquoi ils font la fête. Les Israélites. Et quand on va voir ce que Dieu a fait dans leur vie, on aura nous aussi envie de faire la fête. Alors le début de cette histoire, ça commence il y a très longtemps, dans un pays lointain. J'espère que vous allez le reconnaître assez vite. Alors, vous l'avez reconnu ce pays très lointain? C'est en Égypte, bravo. Et à cette époque-là, les Israélites qui sont en Égypte, ils ne sont pas à la fête justement. Ils ne sont pas très heureux parce que, en fait, ils sont esclaves. Ils sont obligés de travailler très, très dur pour s'en sortir. Ils sont retenus comme esclaves en Égypte. Mais il y a Dieu qui va décider de les libérer et il va leur envoyer un libérateur. Est-ce que vous connaissez, les enfants, le nom du libérateur que Dieu va leur envoyer? Alors, Tiana, tu sais? Moïse, c'est ça. Je vous propose ce Moïse-là. C'est le libérateur que Dieu va envoyer à son peuple pour le faire sortir d'Égypte. Moïse, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive en Égypte? Il va voir le chef de l'Égypte, il s'appelle comment? Le Pharaon, il s'appelle Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Et donc il va voir Pharaon et il lui dit, au nom de Dieu, il lui dit, laisse partir mon peuple, ne le retiens plus en esclavage, laisse-le partir. Pour les grands, vous connaissez tous la chanson, Let my people go, voilà. Laisse partir mon peuple. Mais le Pharaon, il est dur. Il a un cœur dur et il ne veut pas laisser partir les Israélites. Alors Dieu, il va trouver une solution qui est difficile. Il va envoyer des plaies, il va envoyer des fléaux, des malédictions sur l'Égypte. Il va en envoyer 10. Est-ce que les enfants, vous les connaissez, les 10 plaies que Dieu va envoyer à travers Moïse, que Dieu va envoyer à l'Égypte pour pouvoir faire sortir son peuple d'Égypte? Alors, quelqu'un a-t-il la première? Rémi, tu veux nous dire la première?
La mer de sang.
Oui, l'eau va être transformée en sang partout en Égypte. La deuxième, est-ce que quelqu'un connaît-il la deuxième plaie? Pas que les miens, s'il vous plaît. Tiana, tu connais? Oui, ce sont les grenouilles. Il va envoyer des grenouilles partout, dans chaque point d'eau, partout dans les maisons. Ça devait être horrible. Des grenouilles dans votre lit, vous imaginez? La troisième plaie. T'as une idée de la troisième plaie? Ah, les moucherons, oui. Les moustiques, on va les appeler les moustiques. Ils ont plus une forme de moustique ici. Ok? Le quatrième. Alors, c'est des sauterelles, c'est le numéro... C'est le numéro 8. D'accord? Allez, on va essayer de les mettre en place. À vue d'œil, ça doit être là. Ensuite, il nous manque le troisième. La quatrième, pardon. Rémi?
Les mouches piquantes.
Il y a eu des mouches. Elles piquaient, c'était hyper désagréable. Vous m'aidez un peu là? C'est là?
Oui.
Ok. La cinquième plaie. Paul, t'as une idée? Les boutons, c'est la sixième. Tout le monde en Égypte, le corps recouvert de boutons. Comme à l'adolescence. La varicelle, oui. Alors, j'ai un peu perdu les comptes, mais il nous en manque. Il manque le 5. Ah oui, il est là. T'as une idée, Rémi?
Le bétail qui est mort?
Oui, les animaux. Il a envoyé la peste du bétail et tous les animaux d'Égypte sont morts à ce moment-là. Le 7, pardon?
Après, il y a
Il y a les boutons et après les boutons. Mathieu ? La grêle. La grêle. La grêle qui dévastait tout, et quand les grêlons tombaient au sol, ça s'enflammait aussi. Ensuite, il nous en manque deux. Il a plongé l'Égypte dans la nuit, exactement. La grande nuit, le grand noir pour tout le monde.
C'est ça.
Bon, vous corrigerez l'ordre si c'est faux. Hein. Vous regardez, vous ouvrez vos Bibles, Exode, chapitre, tout le début, vous relisez et vous les trouvez. Et il y a eu une dernière plaie, horrible la dernière plaie. Clément, tu veux essayer ? Tu te souviens de la dernière plaie ? Vas-y. Oui. Très exactement, Dieu a fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens. Ce n'était pas que des bébés. Si le premier-né dans chaque famille. Moi, je suis le premier-né, tu vois. Je suis grand, mais je suis le premier-né. Si j'avais été Égyptien à ce moment-là, je serais mort. Parce que j'étais le premier à sortir du ventre de ma maman. Voilà toutes les choses horribles que Dieu a dû faire à cause du cœur endurci de Pharaon pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et il y avait les Hébreux aussi, il y avait les Israélites dans ce pays. Alors Dieu leur a pourvu une solution pour pas qu'ils meurent, pour pas que les premiers-nés des Israélites meurent en même temps que ceux des Égyptiens. Il y a eu une solution. Est-ce que... Tu veux nous expliquer, Paul, quelle était la solution que Dieu a mise en place ?
Il fallait ouvrir un agneau,
oui.
Il fallait prendre
le sang de l'agneau et le mettre sur les deux montants et le linteau de la porte. C'est exactement ça. Un agneau pour que chaque premier-né des Israélites ne meure pas. Alors on va faire... C'est Rémi, j'ai un assistant. Rémi va être mon assistant pour cette partie-là. Alors, les enfants, est-ce que vous savez, vu qu'on parle de fête, il se trouve que c'est sans doute la plus grande des fêtes juives, la plus grande des fêtes que le peuple d'Israël célèbre. Est-ce que vous connaissez le nom de cette fête ? Y a-t-il quelqu'un qui connaît le nom de cette fête ? Les adultes, vous nous aidez un peu ? C'est la Pâque, Pessah en hébreu. La Pâque juive. Et est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Pâque en hébreu ? Est-ce que vous savez ? Je vois quelques adultes qui font le geste, ils font comme ça. Oui, tu as une idée ? Ça ne veut pas dire la résurrection, non. Le mot Pâque, ça veut dire passer au-dessus. Parce que quand l'ange de l'Éternel est venu pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, quand il a vu le sang sur le montant et le linteau de chaque porte des Hébreux, l'ange n'est pas entré dans la maison, il est passé au-dessus. Et c'est ça que veut dire le mot Pâque, passer au-dessus. Alors à cause de la mort des fils premiers-nés des Égyptiens, tout le monde était très triste en Égypte. Et à votre avis, est-ce que le Pharaon, il a accepté de faire partir le peuple d'Israël à ce moment-là ? Il a accepté, en effet. Il a accepté et les Israélites ont pu partir, enfin. Et quand ils sont partis, où c'est qu'ils sont allés ? Devant quoi ils se sont retrouvés ? Ils ont eu un petit problème. Ils se sont retrouvés devant la mer. Alors on va la matérialiser, la mer. Ok. Donc ils se sont retrouvés là, devant la mer, coincés. Et Pharaon, entre-temps, il avait changé d'avis. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Comment ils s'en sont sortis de cet épisode-là ? Clément, tu veux essayer ? Moïse a ouvert la mer, c'est exactement ça. Dieu lui a demandé d'étendre son bâton, donc il a pris son bâton comme ça. Il a pris son bâton comme ça, et puis Dieu a ouvert la mer. Et comme ça, les Hébreux, ils ont pu passer. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé quand les chars de Pharaon essayaient de les poursuivre à travers la mer ? La mer s'est refermée, pof. Et les Israélites, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la mer, sains et saufs. Et vous avez une idée de comment ça s'est appelé, cette période, ce moment de l'histoire d'Israël, quand ils ont pu sortir de l'Égypte de cette façon? Est-ce que vous connaissez le nom? Les grands peut-être aidez-les? Ça s'appelle l'Exode. Suite à la Pâque, où ils ont tué un agneau dans chaque famille, ils ont pu sortir d'Égypte et ça s'est appelé l'Exode, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont retrouvés derrière la mer? Vous avez une idée? Rémi?
Il a pas pris du pain sur le pain.
Où se sont-ils retrouvés exactement? Dans le désert. Alors on va faire un désert. Allez. Voilà. Les Hébreux se sont retrouvés dans le désert. Dans le désert, ils ont eu faim, ils ont eu soif, et ils ont reproché à Dieu de les avoir sortis d'Égypte pour crever de faim dans le désert et crever de soif. Et est-ce que vous pensez que Dieu les a laissés tomber dans le désert? Non? Il a continué à être bon avec eux? Qu'est-ce qu'il a fait? T'as une idée, Paul? C'est pas de la viande qui tombait du ciel chaque jour.
Du pain,
ouais, ça ressemblait à ça. Alors, voilà. Chaque jour, Dieu, il leur a donné... chaque jour, Dieu, il leur envoyait du ciel pendant la nuit une sorte de farine qui recouvrait le désert, comme ça. Et le peuple, il venait balayer cette farine tous les matins et il se fabriquait des pains avec. Vous savez comment on l'appelait, cette farine? La manne. Voilà, c'est les grands, hein. Voilà ce qui s'est passé. Dieu leur a donné la manne. Et quand ils ont eu soif, vous savez ce que Dieu leur a fait? Il leur a donné à boire. C'est aussi simple que ça. Ils sont arrêtés à un endroit qui s'appelle Réphidim. Il y avait un gros rocher. Et Dieu a demandé à Moïse de faire quoi? De taper le rocher avec son bâton. Et de l'eau en est sortie. Et ça a pu abreuver les Juifs, les Israélites, dans le désert. Bon, il n'est pas trop à l'échelle, là, mon caillou, mais... Non, je ne ferai pas l'eau sortir du rocher. Je ne me suis pas engagé à faire ça. Voilà, OK. Ensuite, les Israélites, ils sont arrivés au pied d'une montagne. Est-ce que vous connaissez le nom de cette montagne très connue au pied duquel sont arrivés les Israélites? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un a une idée? Mathieu, tu as une idée? Le mont Sinaï, exactement. On va essayer de faire un mont Sinaï, comme ça, là. Sur le mont Sinaï, Moïse est monté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté pendant combien de temps, là-haut? Il est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Et il a reçu quoi de la part de Dieu sur le mont Sinaï? Les tables de la loi, les commandements de Dieu, il les a reçus sur le mont Sinaï, à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, que faisait le peuple? Est-ce que le peuple était remercié Dieu, était super content? Non, le peuple, il continuait à râler. Qu'est-ce qu'il a fait, Julian? Qu'est-ce qu'il a fait, le peuple? Parle plus fort. Ils ont adoré des idoles. Tu te souviens de la forme de cette idole, de cette statue qu'ils ont créée? Un taureau, un veau, très exactement. Je vous ai amené un veau Playmobil que j'ai essayé de recouvrir d'or, d'une espèce de feuille d'or. Voilà. Voilà ce que les Israélites ont fait. Plutôt que de remercier Dieu qui les avait libérés d'Égypte, ils se sont construits une statue en or. Et tout le peuple s'est prosterné devant cette statue en or. Quelle horreur! Ils savaient très bien que ce n'était pas un veau en or qui les avait fait sortir d'Égypte. Et pourtant, ils se sont prosternés devant un veau en or, un taureau en or. Dieu les a punis, pas que pour ça, mais pour d'autres choses également. Et en fait, le peuple ensuite a erré dans le désert. Est-ce que vous savez pendant combien de temps le peuple a erré dans le désert, comme ça? Je l'ai entendu? Pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Israël a payé le prix de sa désobéissance, de sa méchanceté, et il a erré dans le désert avant de pouvoir entrer dans le pays promis. Et après 40 ans, eh bien, Dieu a fini par conduire son peuple en Palestine. Et avant d'entrer en Palestine, il y avait un autre obstacle à franchir. Est-ce que vous avez une idée de cet autre obstacle qu'il a fallu franchir? Tu as une idée?
Encore la mer,
mais elle porte un nom. C'est pas franchement une mer, en fait. C'est un cours d'eau. C'est un fleuve qui s'appelle, les grands, le Jourdain. Ils avaient ce fleuve à traverser et ils ont fait quelque chose quand ils ont traversé le cours d'eau. Dieu a fait le même miracle. Il a séparé les eaux en deux du Jourdain. Tout le monde a pu passer. Et quand ils se sont arrêtés au centre du Jourdain, ils ont fait un truc, tout le peuple. Est-ce que vous le savez, les enfants, ce qu'ils ont fait, le peuple, à ce moment-là? Ils ont déposé quoi? Ils ont déposé 12 pierres dans le lit du Jourdain. On va y revenir tout à l'heure. Alors, douze pierres pour les 12 tribus d'Israël. Chacune des tribus a laissé une pierre dans le Jourdain. Une pierre pour dire merci à Dieu qui les avait finalement amenés sains et saufs en Palestine. Les Israélites, Dieu leur a tout donné. Il les a libérés. Il leur a donné à boire, à manger. Il les a conduits pendant 40 ans dans le désert. Et pensez-vous, est-ce que les Israélites étaient reconnaissants? Non. Ils ont continué à désobéir. Ils ont continué à attrister Dieu. Mais nous aussi, on est pareil que les Israélites. On désobéit à Dieu, on attriste Dieu. Dieu aurait dû punir tout le monde. Il aurait dû punir le peuple qu'il s'était choisi et qu'il avait sorti d'Égypte, les Israélites. Il aurait dû nous punir également. Mais, et c'est là notre raison de faire la fête aujourd'hui, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il ne nous a pas punis. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a décidé de régler lui-même le problème du mal que l'homme fait, le problème du mal qu'il y a au fond du cœur humain. Il a décidé de le faire lui-même. Le règlement de ce problème. Et ça, c'était il y a 2000 ans, quand il a envoyé une autre personne. Jésus. Il a envoyé Jésus il y a 2000 ans. Et vous allez voir que Jésus, il a fait des choses particulières dans la vie. Et l'une des choses particulières qu'il a faites dans la vie, c'est qu'il a refait le parcours du peuple d'Israël dans le sens contraire. Est-ce que vous le saviez, ça? Il a refait presque pareil. En tout cas, il y a des gros points de comparaison. On va les voir ensemble. Et vous allez voir qu'en fait, c'était parce que Jésus, il est l'Israélite parfait. Il est le seul être humain, le seul du peuple d'Israël qui a fait ce que Dieu attendait de lui et qui ne s'est jamais détourné de ce que Dieu voulait de lui. Et on va le voir ensemble. Jésus, il est bien allé dans le Jourdain. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que Jésus est allé dans le Jourdain? Un épisode très connu de sa vie. Pour son baptême, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il a été plongé dans l'eau, comme ça. Entre-temps, il y avait un prophète qui s'appelait Michée, et Michée avait écrit, de la part de Dieu, il avait écrit « Tu as jeté nos péchés au fond de la mer. Tu as jeté le mal que nous faisons au fond de la mer. » Et d'une certaine façon, si Jésus, qui était parfait, il n'avait pas besoin de se faire baptiser pour se repentir de quoi que ce soit, il n'avait jamais fait le moindre mal. Si Jésus a été baptisé, c'est au contraire pour se charger des péchés de l'humanité, de tout le mal que les hommes ont jamais fait, il s'en est chargé. Et donc, d'une certaine façon, il a pris tous ces cailloux sur lui. Toute cette méchanceté du cœur humain, il l'a pris le jour de son baptême pour l'amener jusqu'à la croix où il allait payer pour. Juste après son baptême, il va où? Il va exactement comme les Israélites dans le sens contraire, il va dans le désert. Le peuple est resté 40 ans dans le désert. Lui, il va rester combien de temps dans le désert? 40 jours. À vivre exactement les mêmes tentations qu'Israël. Il va avoir faim, il va avoir soif, il va être tenté d'adorer d'autres dieux que le seul et unique vrai Dieu. Mais lui, contrairement à Israël, il va tenir le coup jusqu'au bout. Il est l'Israélite parfait, le seul être humain qui ait jamais mérité la condamnation de la part de Dieu. Et puis il va faire pareil que Moïse, il va monter sur une montagne aussi. Mais là où Moïse avait reçu la loi de la part de Dieu, et bien sur cette montagne, c'est Jésus qui va nous la donner, la loi de Dieu, l'explication de la loi de Dieu. Est-ce qu'un grand pourrait aider? Quand est-ce que c'est ça? Les béatitudes. Matthieu chapitre 5, 6, 7. On appelle ça le sermon sur la montagne. Il est monté sur une montagne et il a parlé à des milliers d'hommes en même temps. Et il leur a expliqué la loi de Dieu. Exactement comme Moïse qui avait reçu la loi de Dieu. Ensuite, Jésus, il n'a même pas eu besoin d'ouvrir la mer en Dieu. Il était encore plus fort que Moïse. Il marchait sur les eaux, lui, directement. Bon, ça, je ne peux pas vous le mimer. Mais on en arrive là. En Égypte, les Israélites avaient eu la vie sauve à cause de ça. Un agneau qui avait été sacrifié, dont on avait pris le sang et qu'on avait déposé sur le montant et le linteau. Et quand l'ange de l'Éternel passait au-dessus des maisons, il n'entrait pas, il ne tuait pas à cet endroit-là. Eh bien, est-ce que vous savez que Jésus est comparé lui aussi à un agneau ? Jésus est l'agneau de Dieu qui permet non pas d'être libéré d'Égypte, mais d'être libéré du péché, libéré du mal que nous avons commis. Ne pas payer la conséquence du mal que nous avons commis. Parce que c'est Jésus qui a payé à notre place. Les enfants, est-ce que vous pourriez me donner des exemples de mauvaises choses que vous faites ? N'ayez pas honte, je crois que les grands, on est encore pire que vous. Il y a des choses que tu fais mal, oui ? Tu fais des bêtises. Tu as quelques exemples à nous donner ? Tu sais pas. Alors peut-être que Rémi va t'aider. Les gros mots, ok. Ok, si on faisait payer 1 euro à chaque gros mot, on serait riche. Ok. Qui d'autre ? Julian. Oh, tu réponds à ton père et à ta mère. Ok. Merci pour ton authenticité, vraiment. Mais... Ok. Courage, parents, on est avec vous. Ok, quoi d'autre ? Les grands là-bas, je vois les grands, ils se marrent, mais. Allez. Un exemple de choses que vous faites mal, peut-être, dont vous auriez honte ? Ouais. Très certainement que vous n'êtes pas toujours très obéissant envers vos parents également. Ok. Mais comme je le disais, eh ben nous, les grands, on fait des choses bien pires. On devrait donc tous être condamnés, tous condamnés, tous logés à la même enseigne. Mais vous vous souvenez que Jésus, je vous ai amené cette croix. Cette croix. Parce que c'est là que Jésus a terminé sa vie. Jésus, qui ne méritait pas de mourir, a donné sa vie sur une croix. Il a payé le prix de nos fautes pour qu'on puisse être épargné. Il est le véritable agneau de Dieu. Ouais, il a été ressuscité. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Il est revenu à la vie parce qu'il ne méritait pas de mourir et la mort n'a pas pu le garder. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est vraiment hyper heureux, nous, les chrétiens, tous les jours de notre existence. Parce que Jésus, non seulement il a payé pour nous, et on a la preuve que son sacrifice a été accepté, parce qu'il est revenu à la vie. Et il nous propose de vivre éternellement avec lui. Si tu fais confiance à Jésus dans ta vie, toi aussi tu vivras éternellement avec lui. Tu ne payeras pas les conséquences de tes fautes. Et c'est tout ce que je te souhaite. Pourtant, il y a un pourtant. Pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, régulièrement, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer quand je pense à ma vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça. Et j'ai eu particulièrement envie de pleurer quand je me suis préparé. J'ai eu particulièrement envie de pleurer en repensant à ça. Le veau d'or. Le veau d'or. Des hommes et des femmes qui s'étaient agenouillés devant un veau d'or en disant « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », alors qu'ils savaient tous très bien que ce n'était pas un veau d'or qui les avait fait sortir d'Égypte. Je me suis dit qu'en fait, moi aussi, nous aussi, trop souvent, on s'agenouillait devant des idoles. Alors, ce n'est pas des idoles qui ressemblent à ça, nous, de notre côté. Moi, je vais vous montrer l'idole devant laquelle je m'agenouillais quand j'avais votre âge, les enfants. Vous allez voir mon veau d'or quand j'avais votre âge. Est-ce que certains avaient le même veau d'or que moi ? Non ? Il n'y a personne qui a joué à la NES quand il était gamin et qui crevait d'envie devant ça à chaque fois qu'il passait devant. Ça a été mon veau d'or. Ouais, bah, vous pouvez vous marrer, les gars, vous jouez à la PS4 et tout, mais à l'époque, ça n'existait pas. C'était ça le top du top à l'époque. Voilà. C'était véritablement mon veau d'or. C'est-à-dire que je vivais pour ça. Je vivais pour ma console. Je voulais à tout prix passer mon temps à jouer à la console. C'était... Si je pouvais vraiment... Mes parents ne voulaient pas avoir la télé dans ma chambre, mais si j'avais pu, j'aurais eu la télé dans ma chambre avec la console branchée en permanence. Et voilà. Pardon ? J'ai été consolé, oui. Et c'est vrai que tout peut devenir une idole dans nos vies, nous les grands. Ok, aujourd'hui, c'est plus la NES, mon idole. Mais toutes les bonnes choses que Dieu a mises peuvent devenir des idoles pour nous. Les loisirs, c'est bien, mais ça peut devenir une idole. Le travail, c'est bien, mais ça peut devenir une idole. La vie de famille, l'ambition personnelle, notre propre vie. On aurait envie d'être au centre de tout gouverner, de tout choisir, que tout se passe selon notre bon vouloir. Tout peut devenir une idole dans notre existence. Et donc, vous comprenez pourquoi j'étais triste en repensant à ma vie. mais en même temps, j'étais heureux. Heureux parce que, ô combien on a besoin de Jésus. Et il a répondu présent. Il a donné sa vie pour ça. Pour me pardonner, pour vous pardonner. Ô combien nous avons besoin infiniment de nous recentrer sur Dieu et de placer notre confiance en Jésus, notre Sauveur. Alors j'aurais aimé qu'on puisse tous faire un acte d'engagement, un acte de confiance en Dieu chacun. Au début, je pensais que j'allais pouvoir ramener un petit caillou pour tout le monde et qu'on allait tous pouvoir faire un défilé, ramener le petit bout de caillou devant la croix, histoire de marquer notre confiance en Jésus. Mais en discutant avec Corinna, on s'est dit que ce n'était peut-être pas une bonne idée, que ça allait être une procession, le bazar organisé dans l'église. Alors, et puis Corinna avait raison, elle m'a dit, mais tu sais aussi, nos péchés, ce n'est pas des petits cailloux, quoi. Alors j'ai demandé à deux jeunes, et ils vont nous apporter quelque chose de bien plus réaliste. Allez, les biscottos. Nos péchés, ce n'est pas des petites choses. Ça ressemble plus à des rochers. On va les mettre là. Merci les gars. Deux gros cailloux pour représenter à quel point notre cœur est plombé par ce mal qu'il y a au fond de nous. Et pour représenter aussi l'énormité, la gravité de nos fautes. Si nos fautes n'étaient pas graves, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir pour elles. Mais au final, nos fautes sont graves et notre rébellion est grande devant Dieu. Et Jésus a dû donner sa vie pour nous sauver. Alors c'est bizarre aujourd'hui, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que finalement aujourd'hui, quand les chrétiens font la fête, c'est un peu bizarre parce qu'ils font la fête parce que quelqu'un est mort. Et en général, quand quelqu'un est mort, on ne fait pas la fête, on est plutôt triste. Mais les chrétiens, non, nous. On fait la fête et on est reconnaissant, on est heureux parce que Jésus est mort à notre place. Et parce qu'il est vivant, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Il est ressuscité et il nous propose la vie éternelle avec lui. Et ça, c'est une belle raison de faire la fête.